Aujourd'hui, j'aimerais avancer un exposé que j'avais déjà parlé. C'est sommes-nous effrayés par certains engagements? Nous avions terminé cela avec l'engagement que Pierre et les disciples de Christ ont pris avec Christ lui-même, en lui disant qu'il le suivrait partout, même s'il devait mourir. Prenez-le en note. Mais on l'a déjà vu dans la première partie. Je vais le relire pour la deuxième partie pour se replonger dans le contexte. Alors, c'est dans Matthieu, Matthieu 26. Alors, Matthieu 26. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Au verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et au verset 35. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Nous avions vu dans la première partie que certains engagements ne nécessitent pas de grandes obligations ou de grandes implications en tant que responsabilité venant de nous. Et cela dû à certaines contraintes auxquelles nous serions exposés sur notre chemin pour l'exécution de ces engagements. Nous avons vu qu'il y avait au moins deux engagements importants qu'il nous faut considérer comme très importants pour nous. Un de ces engagements, pour sa réussite, est conditionnel à une série de circonstances qui peuvent être hors de notre contrôle et qui peuvent amener cet engagement dans l'incapacité d'être observé dans sa totalité. Également, c'est de perdre le bien-être qui devrait être suivi de ces engagements. Je fais allusion ici à l'engagement du mariage. La maladie ou autres comme l'agressivité, la démence sont quelques particularités importantes pouvant neutraliser l'union de deux êtres qui pourtant voulait réussir cet engagement. Et le deuxième et le plus grand important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'engagement d'une renonciation de notre moi dans ce monde et ses intérêts pour ses avancements dans toutes les sphères d'activité humaine. Ainsi que pour l'unité que l'on fait avec le Père par l'intermédiaire du sang que Christ a versé pour payer l'amende que nous avions encourue par notre façon de vivre et dont on a été libéré à l'engagement du baptême. Cet engagement nécessite une profonde réflexion, impliquant tout ce qu'elle comporte comme conséquences positives ou négatives dans son quotidien. Ces deux engagements, le mariage et le baptême, ont une importance cruciale dans ce que Dieu développe en nous. Et ici, au niveau du mariage, la différence entre le célibat et le mariage est concentrée dans la responsabilité qu'implique chacun de ces choix, être seul et heureux ou être deux avec la possibilité d'augmenter à trois, à quatre ou plus la cellule familiale, avec beaucoup plus de responsabilité et d'engagement. Et cela toujours dans le but de conserver l'équilibre du bonheur dans le mariage. Par contre, même si une personne ne prend pas l'engagement du mariage, elle est aussi apte que n'importe qui pour ce qui est d'entrer un jour dans la famille de Dieu. Il y a différents engagements et différentes responsabilités liées à ces engagements. Nous avons vu dans la première partie deux grands engagements importants. Mais il en existe deux autres qui ont une très grande importance, qui ne nous sont pas recommandés par Dieu, mais qui nous sont plutôt, c'est plutôt une obligation, une directive de Christ qui nous permettra d'entrer ou de ne pas entrer dans la famille de Dieu. Allons à Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5. Matthieu 5, nous prendrons le verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Allons également à Romains. Romains. Romains, et nous irons dans le chapitre 12 de Romains, et nous prendrons le verset 19 à 21. Romains 12, 19. C'est très relié avec ce que nous venons de voir. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Au verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est une directive très, très claire. Pas facile à faire, je vous l'avoue, mais c'est ce qui doit être fait. Dominer nos émotions, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est tout un processus que nous verrons dans un autre exposé. Nous reviendrons sur ce troisième engagement dans quelques instants. Mais je voudrais revenir sur l'engagement du baptême. On se souvient que Pierre et les disciples de Christ ont failli à leur engagement. Tant il y a aussi longtemps que Christ était avec eux et accomplissait miracle sur miracle, la sécurité et le bien-être des disciples de Christ étaient palpables. Étant donné l'étonnement de toutes les personnes qui assistaient à différents miracles que Christ exécutait. Lorsque Christ fut arrêté, l'atmosphère de leur bien-être a littéralement changé et la peur les a assaillis et ils ont abandonné. Y aurait-il quelque chose qui pourrait nous arriver et qui nous amènerait sur le même chemin que Pierre a utilisé pour fuir par la peur l'engagement qu'il avait promis à Christ de le suivre, même s'il devait mourir? Aujourd'hui, les choses ne semblent pas bouleverser profondément les valeurs que l'Église véhicule dans les médias sociaux. Mais il faut être réaliste aussi à savoir que le temps viendra où des choix très clairs, possiblement comme fut exposé les disciples de Christ, ou Pierre lui-même avant que le coq ne chante, seront également des choix, des options qui se présenteront à nous et qui nous mettront dans des situations forcées et nous imposeront ces choix ou ces options qui seront devant nous. Allons à Matthieu 24. Alors, Matthieu 24, et nous prendrons à partir du verset 9. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et enfin, au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Christ parlait pour ses disciples, ceux de son temps à lui, mais ses écrits sont également et surtout pour ceux d'aujourd'hui. Au verset 12, nous pouvons constater que l'Église n'est pas rendue à cette étape, mais on s'y rapproche. Permettez-moi de répéter le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On n'est pas là, mais on s'en vient vers ça. La sagesse et l'intuition de Dieu qui nous sera accordée seront d'une importance capital à ce moment-là. Mais pour obtenir cette sagesse et cette prise de position de Dieu en ce temps-là, c'est aujourd'hui que tout se planifie. Ce sont les prises de position que nous faisons maintenant à l'égard de l'engagement que Dieu nous a proposé et que nous avons accepté avec toutes ses contraintes. Depuis que Christ a rétabli la vérité concernant les voies à suivre, surtout depuis 1934, par la diffusion de l'existence du vrai Dieu et de ce qu'il a comme plan pour l'humanité, beaucoup d'entraves ont été placées devant l'Église pour empêcher la connaissance d'être véhiculée pour le plus grand nombre de gens possible. Il y a même eu différentes divisions au sein de l'Église elle-même, et cela depuis la venue de Christ il y a 2000 ans environ. Le même stratège ou encore le même scénario est utilisé par Satan, toujours dans le but d'épanouir, pour créer le doute, le désordre, l'égarement et enfin la division. Nous avons un bon exemple avec Ève et son détachement de Dieu simplement par quelques mots bien utilisés et amenant Ève à couper les liens précieux qu'ils avaient avec leur Créateur. Prenons quelques instants et revoyons à cet effet l'exemple de Ève dans Genèse 3, s'il vous plaît. Genèse 3. Genèse 3 et nous prendrons le verset 4. Genèse 3 au verset 4. Ici, c'est le serpent qui répond à la femme, alors que la femme, Ève, lui avait dit qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre au lieu du jardin. Alors le serpent dit à la femme au verset 4, vous ne mourrez point. Au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Simplement par quelques mots, Satan a amené l'esprit de Ève à se poser beaucoup de questions et à se dire, voyons, est-ce qu'on a eu tout ce qu'il fallait de la part de Dieu comme renseignement? Et ils ont chuté. Un engagement doit satisfaire les parties qui sont impliquées dans cet engagement. Et les parties impliquées doivent tous collaborer à la réussite de cet engagement. Il en va de même pour nous et Dieu. Allons à Philippiens 1. Philippiens 1. Philippiens 1 et prendons le verset 6 de Philippiens 1. Je suis persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Allons également à 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, nous prendrons 1 Pierre 5. Nous prendrons le verset 10. Je suis dans 1 Pierre 5 au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous savons que Dieu va investir particulièrement de son temps à notre réussite sur l'engagement que nous avons pris avec lui. Mais nous, quel est le degré de notre désir d'investir pour parvenir à l'engagement final qui est l'entrée dans le royaume qui aboutira seulement au retour de Christ? Pour Dieu, le temps n'existe pas et les obstacles et les contraintes ne l'affectent pas. Il a le contrôle total sur toutes ces choses qui, par contre, pour nous, elles sont désagréables. Mais elles doivent être surmontées et vaincues. L'engagement que nous avons pris avec Dieu ne doit jamais devenir une option de regret ou de déception à cause des contraintes qu'elle engendrera et des perturbations qui pourraient s'y rattacher. Allons à Acte 14. Acte 14. Et nous prendrons le verset 22 de Acte 14. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Allons à Marc, s'il vous plaît, Marc 4. Marc 4. Nous sommes dans Marc 4. Marc 4 au verset 16 et 17. Marc 4, 16 et 17. Les autres, c'est la parabole du semeur. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils les entendent, la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Au verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Allons maintenant à Romains 8. Romains 8. Alors, Romains 8, au verset 35 de Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? On ne s'y reportera pas, mais vous pouvez le prendre en note, 2 Timothée 3:1, où l'apôtre Paul parle de notre époque, qu'il y aura des temps très difficiles. Alors, c'est dans 2 Timothée 3:1. Il y a certains engagements que nous avons pris et d'autres que nous prendrons. Et ils pourront ne pas être réalisés par rapport aux espoirs que nous aurions de pouvoir les accomplir. Ce sera à cause de différentes contraintes qui se seront manifestées entre la prise de décision d'agir pour réaliser les engagements en question et leur réalisation. Ces engagements, c'est eux qui nous auront prédisposés à ne pas pouvoir finaliser avec précision ces engagements que nous aurons pris. Et cela ne doit pas être vu comme un désastre total. Les perturbations qu'elles engendreront pourront peut-être être minimes et sans conséquences désastreuses. Par contre, les engagements qui ont été pris ou ceux qui seront pris par d'autres personnes avec un degré de réflexion intense par rapport aux responsabilités qui en seront engendrées au niveau de sa réalisation, je fais référence ici au baptême, une prise de décision pour faire marche arrière ne pourra pas être envisagée. Des conséquences très précises nous sont données à l'égard de cet engagement et du désir et la volonté de ne plus se soustraire aux responsabilités qui permettra à la réalisation de son aboutissement. Allons à 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, nous prendrons le chapitre 2. Nous sommes dans 2 Pierre 2. Excusez, nous prendrons le verset 20 de 2 Pierre 2. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, c'est bien marqué, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et au verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie s'est vautrée dans le bourbier. Dieu est très conscient de tous les engagements que nous avons pris et que nous prendrons à la suite de certaines conditions qui s'offriront à nous. Ces engagements que nous prendrons auront un lien étroit avec les traits de caractère que Dieu s'accorde de développer en nous, et toujours dans le but d'un perfectionnement visant l'excellence dans les décisions que nous avons à prendre à chaque jour. L'obtention d'un caractère parfait dans la chair humaine est totalement impossible à atteindre. Par contre, obtenir le caractère nous disposant à faire des choix et de prendre des décisions réfléchies pour l'obtention de choses très réalisables pour nous tous est un défi auquel Dieu nous permet d'accéder. Plus nous prendrons des actions profitables pour tous, plus nous accéderons à la maîtrise de nos décisions parce qu'il est de ressembler à ce que Dieu veut que nous soyons. Et pour atteindre cela, certaines situations ou circonstances s'offriront à nous pour atteindre cet objectif qui, en passant, est parfaitement réalisable dans la chair humaine. Une des particularités qui nous permet ou qui nous permettra d'atteindre ce statut est de pouvoir évaluer une chose ou une situation et prendre un engagement visant à la réalisation de la chose en question. C'est la capacité d'évaluer le pour et le contre de ce que comportera l'engagement associé à la prise de décision que nous estimerons potentiellement réalisable. Beaucoup de personnes, et on peut le voir autour de nous, sont prêtes à dire oui à n'importe quoi à faire, n'importe quelle chose à faire. Souvent, ce désir est enflammé par une excitation de plaire et d'être accepté par son environnement, ce qui peut nuire à la prise de décision de vouloir s'engager et de bien réaliser ce qui doit être fait. Il nous est permis par Dieu d'avoir constamment l'initiative d'accepter ou de refuser une chose ou un engagement, et cela pour le bien-être de tous. Certains engagements nécessiteront une réelle réflexion pour ne pas entacher ce que nous devons représenter pour Dieu. Juste un petit rappel pour ceux qui avec Dieu travaillent, ceux avec qui Dieu travaille en ce moment. Allez à Matthieu 5. Matthieu 5, qui est un rappel pour chacun de nous qui avons pris l'engagement du baptême. Matthieu 5, et je prendrai le verset 14. Matthieu 5 au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une décision trop hâtive pourrait susciter certains malaises qui pourraient être permanents pour notre futur et nuire pour d'autres décisions qui impliqueraient des actions à poser envers d'autres personnes et qui pourraient même nuire à une relation stable avec ces personnes. Lorsque nous prenons le temps d'évaluer un engagement, nous pouvons réaliser que pratiquement chaque engagement est relié de près à un des 10 commandements de Dieu qu'il nous a donnés, ou même de 2 ou 3 de ces commandements. Et pourquoi pas tous? Si on les regarde très profondément, on va se rendre compte que pratiquement tous les commandements sont impliqués de près ou de loin dans le mauvais engagement. Et cela implique une capacité de réflexion, à savoir avec précision ce qui ressortira d'une action posée à l'égard de n'importe quel engagement qui nous sera proposé. Il est même possible que certains engagements pourraient être difficilement réalisables, et cela même venant d'une obligation de Dieu. Allons à Luc 6. Luc 6. Nous prendrons le verset 27 et 28. Nous avons déjà touché une partie de ce verset avec un autre passage. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et au verset 28, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Allons également à Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Et nous prendrons le verset 34 de Matthieu 10. Alors, je suis dans Matthieu 10 au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Ce genre d'engagement venant de Dieu peut s'avérer très difficile pour certaines personnes. Cela implique une obligation et une énorme responsabilité à assumer pour être reconnus comme des enfants de Dieu qui suivent Christ et ses enseignements. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas été exposés à ce genre de situation, il ne nous est pas possible de saisir l'ampleur du dégât, l'ampleur des perturbations que cela puisse susciter en nous. Ça, c'est pour les ennemis que nous pourrions avoir dans le monde, collègues de travail ou des patrons eux-mêmes, ou simplement des gens que nous rencontrons pour la première fois, mais que nous ne faisons pas bonne impression pour eux. Mais il existe quelque chose de beaucoup plus terrifiant en tant qu'ennemi. Ce sont des frères et des sœurs en Christ qui sont malheureusement devenus des ennemis pour nous. Satan aime provoquer et produire ce genre de situation. Naturellement et heureusement, il ne lui est permis d'accomplir uniquement ce que Dieu lui ordonne de faire, comme ce fut le cas pour Job. Voyons quelques passages justement à cet égard. Allons à Job 1. Job 1. Job 1. Nous prendrons le verset 8 de Job 1. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voyons maintenant l'arrogance de Satan face à Dieu à l'égard de la justice de Job. Allons au verset 11. Au verset 11, c'est Satan ici qui parle. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. En lisant le reste des activités de Job, malgré tous les désastres qui l'ont frappé, il reste imperturbable dans la loyauté, dans sa loyauté à Dieu. Allons à un autre passage où Satan ne lâche pas prise et revient à la charge contre Job dans le but de déstabiliser Dieu pour l'intérêt qu'il porte sur Job et sa loyauté. Nous sommes dans Job 1. Allons à Job 2. Job 2. Nous prendrons le verset 3 de Job 2. L'Éternel dit à Satan, D'où viens-tu? Et Satan lui répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Alors au verset 3, l'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ici, il y a une petite phrase qui est importante. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Au verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. On peut constater encore l'arrogance de Satan face à Dieu par rapport à la justice imperturbable de Job qu'on vient de voir dans 4 et 5, dans le verset 4 et 5. Nous sommes toujours dans Job 2. Alors maintenant au verset 6 et 7. L'Éternel dit à Satan, voici, parce que Dieu lui donne la permission maintenant de toucher à son corps et non pas à ses biens matériels. L'Éternel lui dit, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Il est obligé de faire ce que Dieu lui dit de faire. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et pour combler davantage la douleur et le désastre que Job subit, voilà que sa femme vient davantage perturber avec l'aide de Satan. Voyez le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Et répondons, regardons Job à la réponse de sa femme au verset 10. Mais Job lui répond, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Que peut-on comprendre comme réflexion ou même comme leçon instructive pour nous dans les malheureux effets désastreux que Job a dû absorber dans cette période très douloureuse de sa vie? Plus précise encore est ma question, et nous terminerons cette deuxième partie sur cette question. Est-ce que Satan agit de même avec nous pour créer un environnement propice à un échec de notre part à l'égard de l'engagement que nous avons pris avec Dieu à notre baptême? Et la réponse est certainement. Nous pouvons être certains qu'en tout temps, il essaie d'exciter Dieu à l'égard de nos comportements, des failles que nous pouvons encore avoir dans notre caractère, qu'il n'a malheureusement pas encore atteint son paroxysme ou encore sa pleine maturité dans son développement. Étant donné l'importance des engagements que nous avons à prendre, il y aura une troisième partie finale sur cet exposé. Sommes-nous effrayés par certains engagements? Sur cela, je souhaite à tous un agréable sabbat, un jour de repos et de méditation.